Allez hop.
Allez, je te le lis. L'œuvre humaine la plus importante du 19e siècle fut sans doute l'immense labeur ferroviaire.
Patricia Rochès, présidente de l'Association des Amis du Viaduc de Garabit, historienne et maire de Coran-les-Eaux.
C'est la marque géographique la plus typique à poser par ce siècle et peut-être aussi le grand événement de cette époque. L'immensité du réseau ferroviaire qui compte 1 300 000 km est essentiellement l'œuvre d'un demi-siècle. Aucun réseau de transport ne s'est constitué aussi rapidement et aussi magistralement. Presque tous les pays ont été atteints. Le rail a pénétré partout, en amenant dans les régions les plus sauvages et les plus reculées, des pionniers, des savants, des techniciens, des instituteurs, des journalistes. Il accomplit la plus grande œuvre civilisatrice qu'ait entreprise l'humanité jusqu'alors. C'est beau ça aussi, hein ?
Alors je m'intéresse notamment à la ligne de l'Aubrac parce qu'elle constitue un joyau du patrimoine français et européen.
Antoine Lévesque.
Puisque cette ligne, à bien des égards, est novatrice en termes de génie civil, en termes d'ingénierie ferroviaire, etc.
Étudiant en droit et vice-président de l'Association des Amis du Viaduc de Garabit.
Bon, la ligne a été créée grâce au charbon.
Pierre Nourricier, ancien cheminot.
S'il n'y avait pas eu de charbon, il n'y aurait pas de train ici.
C'est une ligne qui est très ancienne et qui doit sa naissance au fret, à l'exploitation notamment des mines.
Le but, c'était d'amener le charbon créé à Grès-Sag, l'amener le long du canal du Midi, pour qu'après ça parte sur Sète et sur Toulon pour les bateaux.
Puisque au XIXe siècle était venue l'idée de desservir le bassin houlier de Grès-Sag, donc qui est situé dans l'Hérault, à 52 km par la voie ferrée de Béziers.
Ils avaient besoin de charbon et le charbon de Grès-Sag était très bon.
Dès 1852, il y a une concession qui a été obtenue par un décret au profit d'une compagnie ferroviaire, une petite compagnie. À l'époque, c'était la compagnie de Grès-Sag à Béziers.
La compagnie avait son siège à Londres.
Pour des besoins qui étaient exclusivement ceux du transport de marchandises, même s'ils ont été élargis après au transport de voyageurs.
Il y a eu apparemment beaucoup d'argent détourné. Elle a fait faillite avant d'être mise en service, ou quasiment.
Et le tribunal de commerce de la Seine la déclare en faillite en 1861. Deux ans plus tard, en 63, Napoléon III oblige la compagnie du Midi à reprendre cette ligne et à exploiter des tronçons qui étaient en construction vers Millau, puis vers Marvejols, puis vers Neussargues.
Le tracé était le plus court possible, le plus économique possible. C'est en pente continue, ce qui permet, avec les trains vides, de monter facilement, puisque c'est une pente douce. Et au retour, les trains chargés, ils descendent tout le temps. Du coup, ça permet, avec des locomotives de l'époque qui n'étaient pas trop puissantes, de pouvoir amener le charbon. Bon, ça a fonctionné pendant 20 ans, 25 ans. Puis après, quand la compagnie du Midi a racheté la ligne, elle a voulu s'étendre. Et là, ça ne suffisait plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième gare qui a été construite, qui permettait d'étendre l'activité, de pouvoir amener d'autres lignes qui viendraient vers une étoile ferroviaire où on part dans toutes les directions.
Et donc déjà, à cette époque-là, on a réalisé des prouesses, plusieurs tunnels, dont un tunnel de plus de 1 km, près d'un kilomètre 5, celui de Pétafi, donc au sud de Bédarieux. Et ça montre déjà un peu l'audace des ingénieurs à l'époque, parce que non seulement il y a des tunnels assez longs, mais en plus il y a des tunnels en rampe, c'est-à-dire que le train monte très fortement pour attaquer les contreforts sud du massif central. Donc ça, c'est un peu la première pierre.
Et alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la rapidité avec laquelle le réseau ferroviaire s'est bâti en 50 ans en France. Donc en 1850, le début du ferroviaire, c'est vraiment autour de Saint-Étienne, de Nîmes-Alès, enfin partout où il y avait Metz aussi, partout où il y avait en fait des mines. C'est vraiment avec les mines que le transport ferroviaire s'est développé. Et puis en 1870, on passe de 3000 km de voies ferrées en 1850. Et quand on regarde 1890, on a quelques 45 000 km de voies ferrées. Au départ, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui ont voulu développer le ferroviaire. Ça coûtait moins cher de transporter du vin de Bordeaux par l'Atlantique là, jusqu'à Nantes et puis d'aller d'Angers à Paris par le chemin de fer que de faire Clermont-Aurillac dans le Massif central.
Par contre, on a un autre document qui est beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est un original. Alors, c'est le tracé d'origine, des plans d'origine. Bon, il doit dater de 1880 par là, 1890, 1890, tiens. Vous êtes dans le local du futur musée du train et de la photographie de Bédarieux. On a des photos, la plus ancienne date de 1875. On voit la première gare de Bédarieux, c'est la petite baraque en bois. On a aussi une jolie photo du viaduc de l'Usclade. Elle date forcément de la construction, donc de 1874-75. Alors cette photo, c'est un tracteur pousse-wagon. La photo est de 1934 et c'est une femme qui conduit le tracteur. Donc à l'époque, il y avait très peu de femmes qui faisaient ce genre de travail. On a également un plan, alors de la même époque, sur les enquêtes parcellaires, les expropriations, etc., sur cette ligne-là. Bon, ça devait être plus facile d'exproprier les gens que maintenant.
Plus léger que maintenant, au point de vue légal, parce que chez ma grand-mère, ils sont passés en plein milieu de sa propriété. C'était un traumatisme familial.
Et donc, un accord entre la compagnie du Midi et celle du Paris-Orléans allait être conclu pour opérer cette liaison directe entre la Méditerranée et la capitale, et ainsi transporter, à l'époque, notamment des trains de vin, puisque les vignerons du Sud étaient les principaux chargeurs de train de fret.
Vers 1800-1860, la production de vin du Languedoc est très locale. Pour aller sur Paris, par exemple, le seul moyen, c'est de prendre le bateau, aller charger le vin à Sète, faire le tour par Gibraltar, aller au Havre, remonter la Seine jusqu'à Paris. Le vin de Bordeaux a un peu plus de chance parce qu'en partant de Bordeaux, il n'y a pas besoin d'aller passer par Gibraltar. Donc c'est peut-être pour ça que le vin de Bordeaux est plus connu que le vin du Languedoc. Le vin du Languedoc a commencé à être intéressant quand le train est arrivé dans le Languedoc. Donc c'était en gros vers 1855 par là. Par contre, il y avait plusieurs compagnies qui étaient intéressées par le transport du vin parce que c'était très lucratif, mais il y avait trois compagnies concernées, donc ça risquait de faire de la concurrence.
Et à rebours un peu de la conception qu'on peut véhiculer aujourd'hui, l'État veillait à ce que les compagnies ne se fassent pas tant concurrence sur leur périmètre géographique. Parce qu'il fallait assurer l'aménagement des territoires et il fallait éviter évidemment que les compagnies empiètent les unes sur les autres et délaissent les zones qui étaient les moins rentables.
Il y avait le PLM par la vallée du Rhône, il y avait le Midi qui pouvait emmener jusqu'à Bordeaux et la compagnie du Paris-Orléans de Bordeaux à Paris.
Et donc s'ouvre alors une série de batailles parlementaires assez féroces quant au tracé de la ligne, puisque chaque ville, évidemment, voulait être reliée directement à Paris, puisque l'objectif était alors de desservir le nord du Massif central pour ensuite rejoindre le réseau du Paris-Orléans, la compagnie du PO, qui, elle, rejoignait Paris.
Alors au départ, ça a été par la vallée du Rhône, et puis après, côté Bordeaux, la compagnie du PO, qui sentait qu'elle risquait de tout perdre, elle a fait des lignes plus courte, donc ça a commencé de Paris à Agen, et puis après il y a eu Paris et Toulouse par la montagne. Et la compagnie du Midi sentait qu'elle perdait tout. Et elle avait un seul itinéraire qui lui permettait de ne pas tout perdre, c'était Béziers-Neussargues. Une des raisons de la création de la ligne, en fait, c'est le transport du vin.
Plusieurs villes, notamment celles de Lodève et de Sainte-Afrique, étaient complètement désespérées puisque le tracé final n'allait pas passer par ces localités. Et c'est intéressant de revenir un peu à cette époque-là et de voir comment le ferroviaire a conditionné l'essor économique des villes.
Chacun construisait une ligne. Alors, du côté de Neussargues, à la fin, il y avait le PLM, il y avait Neussargues après Clermont. Après, le PLM a fait Saint-Flour, Brioude. Alors, l'autre, après, ils ont fait Neussargues, Bord-les-Orgues. Et toutes ces lignes-là, elles ont été construite uniquement pour le transport du vin. Même une des raisons, c'est que le viaduc de Garabit, qui a dû coûter très très cher, c'était pour une ligne qui voyait passer deux trains par jour. Donc comment, pourquoi investir tant d'argent pour faire un si beau viaduc quand il y a très très peu de trafic? Donc c'est que c'était rentable et c'est le vin qui a fait la fortune de ça.
Ah, j'adore ce qu'il dit là aussi. Quand j'étais enfant, un de mes arrière-grand-oncles, né en 1825, et qui avait conduit une locomotive Crampton, me disait « Dans les années 1830, on se rendait à 10 jours de Paris à Lyon. Il fallait 6 jours en été et 7 jours en hiver par la diligence. En 1840, un brave Kindam mettait le même temps pour se rendre des Pyrénées à Paris qu'un courrier de Charlemagne. » Bref, quand on étudie les choses sous cet angle, on s'aperçoit que l'humanité en plusieurs millénaires n'a pas fait un pas plus vite que l'autre. Et voici que tout à coup, aux environs de 1840, le rail et la vapeur. Mais depuis l'Arche de Noé, rien ne s'est fait d'aussi renversant. Voilà à peu près ce que disait ce vieux mécanicien de locomotive.